enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voilà, ceci étant dit, j'aimerais lire avec vous un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 17. Connaître Dieu, c'est vivre. Ce n'est pas de moi, ce titre-là, c'est une phrase qu'avait dit un célèbre écrivain russe, nom de Léo Tolstoï. Il avait dit un jour, connaître Dieu, c'est vivre. Lisons ensemble le passage à partir du verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Et je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps ? Là s'assembleront les aigles. » Ce texte est particulièrement intéressant parce que le parallèle dans Matthieu 24, verset 1, et les versets suivants, nous parlent de ce même texte. Et là, il introduit le texte sous son retour en parlant de Jérusalem et de sa destruction quelques 30 années plus tard. Et quand on connaît l'exactitude de la prophétie de Jésus à l'égard de Jérusalem et son accomplissement, je dirais quasi littéral, aucune pierre n'est restée sur pierre à Jérusalem. 30 ans après la mort de Jésus. Eh bien, on peut se dire que le texte que nous venons de lire est extrêmement intéressant, et pertinent, et sérieux, et fort intéressant pour nous. L'aspect angoissant de ce texte, quand je l'ai lu hier matin, je me disais, mais pourquoi est-ce que l'une des femmes sera prise et pas l'autre? Pourquoi un des hommes sera pris et pas l'autre? On est loin du coup d'éponge. Un final pour tous du refrain de la chanson, nous irons tous au paradis. Nous n'irons pas tous au paradis. Mais le côté encourageant du texte, c'est ces deux hommes, c'est ce Noé et ce Lot qui, dans le marasme général, ont été sortis, ont été épargnés. Et je me suis demandé, mais qu'avait-il de si particulier pour que Dieu s'intéresse à eux et les arrache littéralement, comme des braises arrachées au feu, qu'il les arrache littéralement au marasme à venir? Et je me suis dit, peut-être ce serait intéressant que ce soir, on regarde de plus près ces deux petits personnages, qu'on les étudie et qu'on voit un petit peu d'abord le contexte de l'époque de Noé et de Lot, la particularité de Noé et de Lot, leur connexion à la vie. Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que vivre en fin de compte? Et puis enfin, comment l'obtenir, comment la recevoir et comment l'entretenir? Surtout, comment garder cette flamme avec Dieu? Tout d'abord, le contexte de Noé et de Lot. D'après Luc 17, les temps de Noé et de Lot étaient caractérisés par l'indifférence à Dieu. on mangeait, on buvait, on se mariait, on mariait les enfants, on plantait, on construisait les maisons. Quoi de mal à cela? Quoi de plus beau que d'avoir des projets dans la vie et de faire exactement ce qu'on fait une génération avant nous et de bien le faire? Le problème n'est pas de construire une maison ou de bâtir ou de planter. Le problème, c'est que les gens avaient mis tout leur esprit et leurs efforts là-dedans. Et Dieu, il n'avait que faire de cela. Noé, à mon avis, il a dû pendant 120 ans travailler et certains ne se sont jamais intéressés à lui. Oh, sûrement, il y en a qui se sont moqués de lui, mais sans doute qu'il a passé 120 ans dans l'indifférence générale. Parlez aujourd'hui de tout ce que vous voulez, mais si vous parlez de Dieu, vous intéressez peu de monde. Il y a une espèce d'indifférence. Tout va bien en France, tout va bien en Occident. Après le 11 septembre, les églises sont remplies en Amérique, mais quelques semaines plus tard, tout est redevenu normal et on n'avait plus rien à faire de Dieu et de l'Église. À la dernière guerre mondiale, les églises étaient remplies en Europe. On allait prier le bon Dieu que la guerre s'arrête une fois la guerre finie. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de Dieu? On a du travail, une maison à construire, un pays à refaire. L'indifférence générale. Deuxième caractéristique de l'époque de Noé, cela est marqué dans Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. » Ça fait quelques mois qu'on nous bassine d'insécurité et de choses de ce genre-là en France. Et encore, la France, c'est un cadeau par rapport à d'autres pays qui sont chaotiques. Allez voir un petit peu en Afrique, en Sierra Leone et ailleurs, où la violence, la corruption est à son plus haut point. Et que sais-je encore? Chaque pays a son lot de souffrances, de la violence. Allez voir le Proche-Orient, on ne nous parle que de violence depuis des années maintenant. La violence caractérisait l'époque de Noé. Enfin, une troisième caractéristique, et qui ressemble fortement à celle que nous vivons aujourd'hui, c'est une immoralité croissante et rampante. Il y a un verset comme ça qui passe, non pas inaperçu, mais qui est marqué entre deux autres versets, comme ça, dans Genèse chapitre 19, verset 5. Vous vous souvenez, ces trois anges qui sont allés voir la ville de Sodome et de Gomorre, ils arrivent sur la place centrale de la ville, et Lot, les voyant, leur dit « Venez chez moi, vite, allez, rentrez chez moi à la maison !» D'abord, ils refusent, et puis Lot devient pressant, il dit mais venez vite chez moi, venez maintenant, rentrez chez moi, dépêchez-vous !» Une fois qu'ils y sont, voilà ce qui est marqué. Écoutez bien, les hommes, des plus jeunes aux plus vieux de la ville de Sodome et de Gomorre, appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir ?» Fais-les sortir. Nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Et il est dit, et Jésus dit, dans les temps qui précéderont mon retour, on va retrouver les mêmes caractéristiques dans le monde. En l'espace de 10 ans, l'immoralité est devenue une chose croissante. C'est passé partout. Les tabous, les uns après les autres, ont été balayés. On les a renversés. Heureusement, il y a des sociologues qui parlent d'interdits fondamentaux qui garantissent la survie de la société, comme par exemple l'inceste. Heureusement qu'on en parle, n'est-ce pas? La pédophilie. Récemment, j'ai regardé une émission pendant les congés, tard le soir, sur justement les différents tabous. Et on nous racontait combien on avait fait des progrès en France et que les tabous, les uns après les autres, sont tombés. Alors on nous a parlé de l'adultère, on nous a parlé de l'homosexualité. Et enfin, on nous parle de la pornographie. Et là, ça a réagi. Mais je me suis dit, ça met longtemps à réagir. Certains ont quand même dit, c'est pas bon pour les enfants qu'on ait maintenant la pornographie à la télévision. Que les enfants aient accès librement à la pornographie à la télévision. Que l'enfant de 11-12 ans n'a pas forcément le recul face à l'image pour se dire « ça c'est la réalité ou c'est un film ». Mais bien aimé, je me dis combien de temps encore Cela va-t-il durer pour que la pornographie fasse partie intégrante de la vie des Français moyens? L'immoralité croissante et rampante, comme du temps de Noé et de Lot. Ce furent là les caractéristiques de ces temps-là. Et c'est la raison pour laquelle le texte que nous venons de lire ce soir est d'autant plus à prendre au sérieux. Deuxième point, la particularité de Noé et de Lot. Qu'est-ce qui a rendu ces gens-là aussi particuliers? Pourquoi Dieu s'est-il intéressé à eux et pas aux autres? Ou disons, moins aux autres. Pourquoi sont-ils sortis de la masse? Eh bien, je dirais que les deux connaissaient Dieu et étaient justes à ses yeux. Dans Genèse 6, verset 10, Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. La version en français, Louis II, dit « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Quand Dieu lui disait d'aller vers ceci, faire cela, Noé suivait derrière. Quand Dieu lui disait « Maintenant, tu fais un grand bateau de telle taille », Noé s'est mis au travail et il a commencé à scier le bois, à le tailler et à faire son bateau. Et Noé était droit et juste et intègre. Je pense à cet homme, nom de Corneille, dans le Nouveau Testament. Un homme inconverti au départ. Un homme qui ne connaissait pas l'Évangile. Mais quand même, ce soldat romain, ce centenier, qui a sûrement dû lancer plus d'une fois une charge de ses troupes sur un camp ennemi. Eh bien cet homme-là, cependant, priait beaucoup, est-il dit. Et il faisait beaucoup d'aumônes. Et il était juste. Et ça a attiré la faveur de Dieu sur sa vie. Et Dieu a vu comment il était. Et à un moment donné, Dieu va lui envoyer quelqu'un, Simon-Pierre, pour qu'il lui amène l'évangile dans son intégralité. Et cet homme-là et sa maisonnée sera sauvé. Parce qu'au fond de lui-même, il a démontré une certaine forme d'intégrité et de justesse et de justice. J'aimerais vous dire, vous qui cherchez Dieu et qui essayez de marcher droit, vous avez la faveur de Dieu qui vous cherche. Dieu vous voit et Dieu vous attire à lui. Dieu met au fond de vous une faim et une soif de lui et vous attire à lui encore ce soir. Il veut aller à votre rencontre comme il est allé à la rencontre de Noé. Par rapport à Lot, dans 2 Pierre 2 verset 5, Lot on peut le condamner, mais voilà ce que Dieu dit par rapport à Lot. Dieu a condamné les villes de Sodome et de Gomorre et s'est détruite par le feu en donnant par là un exemple de ce qui allait arriver à tous les pécheurs. En revanche, il a délivré Lot, homme juste, qui était affligé par la conduite immorale de ses contemporains sans scrupules. Car ce juste, qui vivait au milieu d'eux, voyait et entendait tout ce qu'ils faisaient jour après jour. Leur vie scandaleuse tourmentait son cœur honnête. Noé était même capable d'entendre Dieu lui parler directement. Lot l'était moins. Mais les deux sont déclarés justes devant Dieu et les deux ont été épargnés. Pourquoi ? Étaient-ils considérés comme justes devant Dieu ? Qu'est-ce qui les a gardés en vie ? Eh bien, je crois profondément que la raison profonde pour laquelle Lot et Noé ont été conservés et sont restés en vie, c'est parce qu'ils connaissaient Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre. Jésus dira la même chose avec d'autres mots. Dans Jean 17, versets 2 à 3, Jésus dit, verset 3, « La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. » La vie éternelle consiste à te connaître, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, comme du temps de Noé et de Lot, alors que personne ne s'en apercevait, un jugement ça allait s'abattre sur le monde. Ainsi, bien-aimé, sans faire peur à personne, l'accumulation de la violence, de l'immoralité, prépare un jugement sur l'humanité. Je ne suis pas du genre prophète de malheur. Je ne suis pas du genre à voir partout dans tout un signe du ciel. Mais cependant, faut-il quand même être réaliste. Jamais autant qu'au cours du dernier siècle, le monde n'a connu autant de tremblements de terre. Jamais autant on a autant parlé de violence. On a l'impression que même les États sont dépassés par les événements. Les zones de non-droit sont partout. Dans chaque ville, bientôt, il y aura des zones de non-droit où la police a peur de pénétrer. Mais bien aimé, quelque part, il y a un temps qui se prépare qui n'est pas des meilleurs. Et Dieu nous appelle à la repentance, au changement de vie, et nous invite à nous laisser, je dirais, interpeller par l'exemple de Noé et de Lot. La vie éternelle consiste à te connaître. Comment échapper à ce marasme? C'est en le connaissant. Avant la réunion, on a prié avec le frère Jean il y a un instant. On a prié pendant un moment ensemble et on parlait justement de ces choses qui sont en train de venir. On parlait de la puce électronique qu'on fabriquerait. Je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, on en parle. Et bien aimé, qu'est-ce qui va nous sauver de ce marasme? C'est le fait de connaître Dieu. C'est le fait de le connaître. Je n'ai pas dit le fait de savoir des choses sur Dieu. J'ai dit le fait de le connaître à titre personnel. Connaître Dieu, c'est vivre. Connaissez-vous Dieu personnellement? Connaître Dieu, c'est la différence entre celui qui sera laissé et celui qui sera enlevé. De deux hommes, dans le même champ, dans le même tracteur, de deux collègues de travail, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux personnes qui partagent un même lit, la personne qui connaît Dieu sera prise, l'autre laissée. Il y aura une séparation fine. Personne ne pourra dire « Oh, mon épouse était convertie, j'irai au ciel grâce à elle ». Faux ! Tu n'iras pas au ciel grâce à elle. Tu as connu un temps de grâce grâce à elle. Tu étais rapproché de Dieu grâce à elle. Aucun fils, aucune fille ne pourra dire « Ma mère était chrétienne, j'irai aussi au ciel ». Faux ! Faux, archi faux. Tu n'iras pas au ciel à cause de ta mère. Ta mère a prié pour toi sûrement. Et elle t'a, par ses prières, elle t'a rapproché de Dieu. Mais cela ne te sauve pas. Il faut que toi, tu connaisses Dieu personnellement. Mon collègue était croyant. Mon collègue m'a parlé de Jésus. Très bien. Ton collègue chrétien a même prié pour toi, même jeûné pour toi. Mais vient le moment où tu as toi à prendre une décision pour Jésus. Amen. Amen. À un moment donné, la foule suit Jésus. La foule était là à cause des miracles. Il y avait eu la multiplication des pains, des malades guéris, etc., etc. Et la foule le suivait. Mais à un moment donné, Jésus va se retourner vers la foule et dire, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et chaque juif savait ce que voulait dire prendre la croix et suivre quelqu'un d'autre. Prendre la croix, c'était aller à l'encontre de ses propres désirs profonds, ses mauvais désirs. Et à partir de là, la grosse masse de la foule a renoncé. La foule voulait bien le miracle de Jésus, mais pas le Jésus du miracle. Les 10 lépreux sont venus à Jésus. Les 10 avaient le même problème, la lèpre. Les 10 ont fait une même demande, guéris-nous. Les 10 ont été guéris, mais un seul est revenu et a suivi Jésus et l'a adoré. Bien-aimé, qu'est-ce qu'avoir la vie? Avoir la vie, c'est être connecté à celui qui donne la vie. Le Dieu de la vie et son Fils qui donne la vie. Connais-tu la vie éternelle? As-tu un jour réellement rencontré le Christ vivant? Je te pose la question, simplement, comment l'obtenir? Certains ont tenté en étant très religieux. L'apôtre Paul va faire un long développement comment lui, avant de connaître Jésus-Christ personnellement, va avoir essayé d'être juste aux yeux de Dieu en faisant un tas de choses religieuses. Il va dire, j'étais juif, né de juif, hébreu, né hébreu. J'étais enseigné au pied de Gamaliel, un célèbre théologien de l'époque. J'étais pharisien, fils de pharisien. J'avais tout ce qu'il fallait. J'étais chrétien de père en fils. Mais tout cela, dira Paul, c'est de la boue. Ce n'est rien à côté de la connaissance que j'ai de Jésus-Christ. Il y a des gens ainsi qui connaissent un tas de choses sur Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu lui-même. Mais Paul va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et Paul sera bouleversé à vie. Une rencontre, et Paul sera différent d'un instant à l'autre. Au bout de quelques jours, il se rend compte de ce qui s'est passé dans sa vie. Il va reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et il va devenir un de ses prédicateurs puissants entre les mains de Dieu. Il connaissait désormais Dieu. Abraham connaissait Dieu. Lot connaissait Dieu. Noé connaissait Dieu. Abraham va entendre Dieu lui parler. Il va lui dire, Abraham, tu auras un fils. Maintenant, vas-y, pars de ton pays. Et Abraham, il est marié dans Genèse 15, verset 4. Abraham crut. Et Dieu le lui imputa à justice. Eh bien, lorsque Abraham a fait confiance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, à un moment donné, Dieu lui a imputé cela comptablement à justice. Et Abraham est devenu juste aux yeux de Dieu. Et cette justification par la foi traverse la Bible de Genèse à Apocalypse. Comment puis-je, moi, devenir juste aux yeux de Dieu si je crois dans mon cœur que Christ est mort et ressuscité, et si je proclame de ma bouche, alors je suis sauvé. Cette foi me rend juste aux yeux de Dieu. Abraham avait des défauts. Abraham savait mentir. À deux reprises, bien aimé, il va fourguer sa femme à un autre homme. Hein. Mais il a fait des égarements, il s'est repris, il s'est relevé et il est revenu à Dieu. Et Dieu l'a chaque fois repris. Et à la fin de sa vie, Dieu l'appelle son ami. Connaître Dieu, c'est vivre. Les Juifs demandaient à Jésus, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Et Jésus de répondre aux Juifs, « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. » Autrement dit, « Que vous croyez en moi, » disait Jésus. Le travail que Dieu veut que vous fassiez, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean 6, 29. Connaissez-vous Dieu? Êtes-vous en relation avec lui? Avez-vous la vie? Jean-Baptiste dira dans Jean 3, 35, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Il n'a pas dit celui qui aura le Fils, celui qui a le Fils. On peut recevoir le Fils de Dieu dans son cœur, dans la prière. Si vous ne l'avez pas encore, ne partez pas d'ici sans venir prier avec Christian et moi-même. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans votre vie aussi. Amen. Amen. J'aimerais finir par un dernier point. En parlant de cette vie. Vous savez, si connaître Dieu, c'est vivre. J'aimerais dire que vivre, c'est aussi entretenir la relation. Et bien aimé, il peut en aller de même dans notre marche avec Dieu. Et j'aimerais un instant soit parler aux chrétiens. Parler à ceux qui déjà depuis un bout de temps marchent avec Dieu. Dans l'évangile de Marc et Matthieu, on trouve la parabole du semeur. Et là, nous avons à un moment donné cette graine qui tombe dans le terrain où il y a les chardons. Et les chardons poussent autour de la plante du blé qui monte. Et l'apôtre Marc va identifier les chardons qui viennent étouffer la bonne plante. Écoutez bien. Marc 4, verset 19. Il est dit, ce sont donc la bonne plante qui est plantée dans le sol, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui ? Et voilà les chardons. Les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Combien de gens sont venus à Dieu avec des problèmes? Et tant qu'ils avaient des problèmes, je vous assure, ils cherchaient Dieu. Voilà que Dieu les délivre de leurs problèmes, voilà que ça va mieux, ils commencent à les bénir. Et tout à coup, dans la marche avec Dieu, voilà que la routine s'installe. Mais quelque part, le cœur n'y est plus. Il y a maintenant la maison, il y a la piscine, il y a la voiture, il y a la carrière, il y a l'avancement. Et il y a, tu comprends bien, il y a le fils, la fille, il y a ses études, il faut l'installer. Il y a la seconde maison, la troisième maison, l'appartement dans le sud. Frère, ça fait 3 mois que tu n'es pas venu à l'église. Ah mais tu comprends, c'est maintenant l'été, il y a tellement à faire. Mes fleurs, mes géraniums, mes pétunias. Il y a le gazon, il y a la haie à tailler. Et tu comprends, il faut quand même profiter un peu de la vie, non? Avec les étés qu'on a actuellement, il faut quand même aller se baigner le dimanche matin à la piscine. Et tout à coup, l'invasion des convoitises rend la vie avec Dieu infructueuse. Et combien de croyants ont perdu, et je le dis honnêtement, ont perdu ce côté vibrant dans la relation avec Dieu. Oui, au début, ils étaient amoureux fous de Jésus, prêts à faire un culte, deux cultes par semaine, prêts à faire des kilomètres pour aller au culte, prêts à prendre du temps pour se lever le matin et aller prier, à avoir la relation avec Dieu. Mais avec le temps, puisque tout va bien, allez, pourquoi se fatiguer? Et tranquillement, la relation, la routine s'installe, toile d'araignée, poussière. Et à la fin, bien-aimé, on sourit peut-être, mais entre Noé et Lot, il y avait une différence. Noé cultivait sa relation avec Dieu. Noé cultivait sa relation avec Dieu. Mais Lot, lui, il avait d'autres considérations. À un moment donné, entre les bergers de Lot et d'Abraham, il y avait une bagarre à cause d'un puits. Et Abraham dit, écoute Lot, pas se battre, tu es mon neveu, je suis ton oncle, allez, on se sépare, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas au nord, je vais au sud. Et il est dit, dans Genèse 14, je crois, Lot leva les yeux et vit les plaines arrosées de Sodome et de Gomorre. Enfin, berger, il s'est dit, là, il y a du pognon à faire. Là, il y a des terrains gras, mes moutons vont bien manger, il y aura de beaux petits agneaux, il y aura de la laine, il y aura du... On va faire du business. Et il va devenir riche. Mais il va aussi se rapprocher dangereusement d'un monde qui va petit à petit le manger. Et il aura beaucoup de mal à entendre Dieu lui parler. Il faudra que Abraham intervienne une, deux fois pour le sauver, littéralement. Et à la fin, ce brave Lot, qui cependant était juste aux yeux de Dieu, va quand même tout perdre. Va perdre sa bonne conscience. Il était tourmenté, d'ailleurs, par la vie scandaleuse des contemporains. Va perdre sa femme dans la fuite. Ses gendres le prennent pour un plaisantin quand il dit « Attendez voir, ça va tomber demain. » Ils vont croire qu'il fait une blague. Les gendres vont rester à Sodome et Gomorre. Et enfin, les deux filles qui vont être sauvées avec lui vont le rendre incestueux. Et les deux petits-fils qui vont naître de cet inceste vont devenir des tribus qui seront les ennemis jurés d'Israël. Et Abraham avait été d'une autre nature, comme Noé aussi. Dieu aimait encore Lot, et Dieu a sauvé Lot. Il l'a arraché, mais il avait tout perdu. Je crois que c'est une image pour les chrétiens qui pendant un temps marchent avec Dieu, et Dieu les bénit, Dieu leur fait du bien, Dieu les choisit, mais tout à coup la richesse, les convoitises vont devenir un piège pour eux. Moi je suis heureux quand Dieu vous bénit, vraiment je suis heureux, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous rende riche, qu'il vous rende prospère à tous égards, franchement, au niveau santé, au niveau finance, au niveau maison, tout ce que vous voulez, mais que jamais ces richesses ne deviennent un piège pour votre âme. Mais qu'elle soit un outil à son service. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment à cet égard-là. Entretenez la flamme. Je conclue en disant, pourquoi l'un des hommes a été pris et l'autre laissé? Eh bien, pour la bonne et simple raison que les uns étaient connectés à la vie et pas aux autres. Le salut est une chose individuelle. Votre meilleur ami peut être une fervente chrétienne. Ça ne vous sauvera pas, vous. Il faut que vous aussi passiez par la repentance et la nouvelle naissance et que vous connaissiez Dieu. Amen. La vie est dans la relation. Un couple qui marche est un couple qui est en vie. Un couple où la relation est moribonde est un couple qui se meurt. Il n'y a pas de même avec Dieu. Avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Léon Tolstoï disait, connaître Dieu, c'est vivre. Bien-aimé, cet homme, né de la haute bourgeoisie russe, à un moment donné, il va vivre une conversion radicale. Et cet homme va être opposé à tas de choses, à l'esclavagisme, au militarisme, à la violence, etc. Et il va rédiger des livres comme « Guerres et paix », des best-sellers mondiaux. Dans un de ses ouvrages, il va dire « Connaître Dieu, c'est vivre ». Connais-tu Dieu ? Et le chrétien, l'as-tu connu ? Mais ta relation avec Dieu est-elle vibrante? Est-elle pleine de vie? Est-elle bouillante comme au départ ou est-elle devenue, allez, tiède? Pas froide, juste tiède. Mes amis, vous connaissez sûrement le reste du verset.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.